Merci beaucoup.
Merci pour vos encouragements. Bonjour à tous. Ce matin, le Seigneur il nous a conduit à travers la louange, la prière, à re-réaliser la croix. Des fois, ça fait du bien de re-réaliser la croix. Et ça tombe bien parce que ce matin, on va continuer à le faire. Alors ce matin, je vous propose que l'on se pose ensemble de nouveau sur le monde des béatitudes et qu'on continue d'écouter ce que nous dit Jésus dans son sermon sur la montagne. Mais avant, je vais prier. Seigneur Jésus, je te remets ce temps. Seigneur, merci d'avoir préparé nos cœurs. Merci d'avoir préparé nos âmes. Seigneur, ce n'est pas par des moyens humains, Seigneur, que tu veux nourrir ce matin, mais c'est par ton esprit, Jésus. Seigneur, que toutes ces paroles, tout ce passage soit à ta gloire, Jésus. Amen. Donc ces paroles directes de Jésus, percutantes, révélatrices, véritables, ces paroles qui travaillent nos cœurs depuis le début du trimestre. Voilà ce qu'on va voir ce matin. Juste la semaine dernière, pour vous rappeler, David nous a parlé des inquiétudes et on a vu ensemble 5 clés bibliques et, par rapport à ces inquiétudes. Et il nous a proposé aussi des pistes de réflexion à lire et à relire, si jamais, dans le mail hebdomadaire de l'Église. Mais avant de commencer, un petit avertissement. Bon, c'est dans Matthieu 7, verset 1, encore après. Voilà, un petit avertissement. Je vais vous laisser lire. Voilà. Et ce matin, désolé, on va parler d'un sujet délicat qui nous concerne tous, c'est le jugement. Et on va lire ça, tu peux mettre la diapo d'après, dans Matthieu 7. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurerez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère, et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Et ouais, ça parle d'un truc qu'on connaît bien, ça s'appelle le jugement. Je crois que l'homme et la femme, dès qu'on grandit, dès qu'on est dans l'âge de raison, vers l'âge de 7 ans, on développe une capacité spéciale bien à nous, une capacité humaine, c'est juger l'autre. C'est un peu l'expression de notre subjectivité. Hein, dès que je peux penser, ben je peux juger. D'ailleurs, dès la Genèse, hein, on peut lire que l'homme et la femme, Adam et Ève, eh ben, ils ont jugé bon de goûter du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, malgré les reconnaissances de l'Éternel. Ils se sont bien plantés, ces deux-là. Hein. Et nous, ben, depuis, de temps en temps, on se prive pas pour les pointer du doigt. Donc quand la Bible elle parle de juger, elle dit quoi en fait? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on peut définir ce mot juger quand la Bible l'utilise? Donc d'après la version Second, voilà, plaider, discerner, condamner, être d'avis, avoir résolu, estimer, mettre en jugement, faire une distinction, avoir la pensée et même faire justice. Aujourd'hui, à l'ère d'Internet, l'homme il est constamment, et la femme, on est constamment entraîné, encouragé à donner notre avis. Vous savez, il y a des articles, on peut laisser des petits commentaires, on peut mettre des pouces vers le haut, des pouces vers le bas, on peut faire des tweets. On a des présidents qui ont utilisé beaucoup de tweets pour donner leur avis, pour juger. Et puis, sans parler de notre capacité à participer au potin. Hein. Tu te rends compte? Non, mais attends, tu sais pas? Il paraît que c'est abusé, non? Voilà toutes sortes de petites formules qui nous sont familières. Et bien sûr, malheureusement, l'Église, elle n'est pas épargnée. On a pu même constater que c'était un de nos lieux favoris pour juger parfois, notre assemblée. Parfois, on se croirait dans Plus belle la vie ou dans Dallas pour les anciens. Hier soir, j'aurais bien aimé mettre un petit micro à la soirée de femmes. Elle était trop facile. Ma femme n'a pas validé cette blague. C'est pas grave. Voilà. Exactement. Voilà. Mais pour revenir à Matthieu 7 et au serment sur la montagne, on comprend la mise en garde du Seigneur. Ne jugez point. Ici, le Seigneur, il veut mettre le focus sur quelque chose de si naturel, si répandu. Franchement, il faut le reconnaître. C'est une vérité, c'est une réalité. Le jugement, c'est incontestable. Mais maintenant qu'on fait ce constat, même honnête, même en étant honnête avec ça, on a quand même un sérieux problème. Est-ce que vous voyez le problème qu'on a ? Le problème, c'est que le Seigneur, il va dire plus loin, en Matthieu 18, 15, « Si ton frère a péché, va et reprends-le, lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Si ton frère a péché, va et reprends-le. » Et même Jacques, il dit dans son épître, « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'est égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » C'est clair. Donc si je comprends bien, Seigneur, tu me mets en garde contre le jugement. Et en même temps, si je vois un frère qui pêche, je suis encouragé à le reprendre. Est-ce que vous voyez le problème ? Comment je pourrais avoir un regard juste sur l'autre ? C'est la diapo d'après. Et juger nous-mêmes qu'il pêche ou qu'il s'égare. Donc avant d'aller plus loin, on va s'arrêter sur cette histoire de paille et de poutre. Le Seigneur, il nous dit, vois-tu la paille ? Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? On va la refaire avec un stylo. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère ? Dans l'œil d'Olivier, par exemple, il est au premier rang. Et ne vois-tu pas la poutre qui est dans ton œil ? En fait, ce que je vois comme une petite paille dans l'œil de mon prochain, en réalité, c'est la même chose. C'est le même obstacle. C'est la même nature. Mais sauf que, en fait, c'est pas là, c'est là. Et en fait, c'est pas un problème de volume, c'est pas un problème de nature, c'est un problème de distance. Une poutre, bien sûr, c'est beaucoup plus gros qu'une paille. Mais ce qui va voiler ma vision, ce qui va l'obstruer, ce qui va pervertir mon jugement, c'est le même objet, c'est le même péché, tout proche de moi. On peut reformuler la mise en garde du Seigneur comme ça. Attention, ce que vous voyez tout proche de l'autre, et par conséquent ce que vous pensez être loin de vous, en réalité c'est juste là, collé à votre visage. Jésus connaît tellement bien nos cœurs. Il sait pourquoi c'est si naturel pour nous de juger. Et parfois on aime bien ça. Et pourquoi ? Pourquoi c'est si instinctif ? Pourquoi ça peut être rassurant de pointer la vie de l'autre pour critiquer ? Comme je l'ai dit, avec l'exemple du stylo, quand je pointe le péché dans la vie de l'autre, simplement, ça me permet moi de m'en sentir éloigné. Ça va me rassurer et ça peut même me faire sentir supérieur. Un exemple concret dans la Bible, c'est l'histoire de la femme adultère. Je vais la résumer rapidement, on ne va pas la lire, mais il y a des pharisiens, des docteurs de la loi qui amènent une femme prise en flagrant délit d'adultère. Et ils vont éprouver Jésus en venant le voir et en lui disant « Seigneur, normalement, vis-à-vis de la loi, cette femme adultère, on doit la lapider. Et toi, qu'est-ce que t'en dis ? Et toi, qu'est-ce que t'en dis ?» La Bible, elle insiste sur le fait que dans cette situation, Jésus, tout en gardant le silence, vous vous souvenez, il écrit au doigt dans le sable. Il les écoute, il les laisse faire. Il répond pas, il écrit au doigt dans le sable. On ne sait pas ce qu'il écrit. Mais le passage, il nous dit que, un à un, les pharisiens, ils commencent à quitter la scène. Ils commencent à se retirer, à partir. Et c'est ça qui a fait penser à pas mal de commentateurs que ce que Jésus, il écrivait dans le sable, c'était les péchés cachés de chacun des pharisiens, ce qu'ils avaient dans leur cœur. Ici, les pharisiens, ils ont essayé de se servir du péché de cette femme pour s'élever au-dessus. Donc je résume, ok pour la poutre, ok pour nos cœurs, mais là on comprend encore mieux notre problème ce matin. Comment faire si un frère ou une sœur a un comportement répréhensible ? Pour bien cerner les choses, je pense qu'il faut entendre ces paroles de Jésus à la lumière de la fin de son ministère terrestre. Gardons à l'esprit la préscience de Dieu. Gardons l'esprit que Dieu y connaît par avance l'histoire. À ce moment-là, quand il est au sermon sur la montagne, quand il le prononce, il sait déjà comment ça va se terminer. À la croix, l'homme l'a jugé. À la croix, l'homme l'a condamné. À la croix, l'homme l'a crucifié. À la croix, l'homme, il a mis son jugement à exécution. Ce qu'on peut dire ce matin, c'est qu'à la lumière de la croix, juger tue. Juger, ça tue. C'est ce que nous dit la croix. Il faut vraiment garder ça à l'esprit pour comprendre tout le passage. Je vais aller plus loin dans l'image. Et j'espère que je ne vais pas vous choquer. Mais quand on pointe le péché dans la vie de l'autre, c'est comme si on pointait une arme sur lui. Chaque fois qu'on juge l'autre, par nos paroles, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là d'ailleurs, ben c'est comme si on appuyait sur la gâchette. Voilà ce que nous dit la croix. Et dans Matthieu 7, Jésus va plus loin. Il dit, on vous jugera à la manière dont vous jugez. On vous mesurera de la manière dont vous mesurez. Donc vous comprenez bien que si vous appuyez sur la gâchette, vous vous tirez une balle dans le pied. Et ouais, Seigneur, c'est ça, je comprends, mais ça ne résout pas mon problème. Et ce n'est pas fini, ça va se gâter encore plus. Parce qu'on connaît bien ce passage sur la poutre, on l'a tous entendu pour ceux qui sont nés dans des familles chrétiennes. Mais on s'attarde moins sur le passage d'après. Le passage d'après, c'est, tu peux mettre la diapo, « Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne donnez pas vos perles aux pourceaux, de peur qu'ils ne se retournent et ne vous déchirent. » Ne donnez pas les choses saintes aux chiens, ne donnez pas vos perles aux pourceaux. Quand on lit ces paroles, ben, je ne sais pas vous, mais moi, je ne me sens pas trop concerné. Je me dis que Jésus, il dit simplement, écoutez, voilà, ne jugez pas, mais choisissez quand même bien avec soin celui ou celle que vous avez à cœur de reprendre. Il y a un peu de ça, mais il ne faut pas aller trop vite. Parce qu'en réalité, si on est honnête, qui est saint et de nature précieuse comme une perle? Qui sont les pourceaux qui se retournent et déchirent? Ce déchirement, il a été rappelé ce matin, au temps de prière. Encore une fois, à la lumière de la croix, il n'y a que deux natures. La nature sainte du Seigneur et notre nature souillée. C'est dur à entendre, mais Christ n'est-il pas la perle que nous avons foulée à nos pieds? Le Seigneur, il est bel et bien le saint que nos jugements déchirent. Et donc ce passage un peu difficile, finalement, il est à double sens. Parce qu'il va interroger autant celui qui reprend que celui qui est repris. Ce verset qui évoque des pourceaux et des chiens, il nous interroge sur le cœur des personnes que l'on peut être amené à reprendre, d'accord ? Mais en même temps, il interroge aussi celui qui est repris. Mon cœur s'est-il endurci ? Comment est-ce que je reçois des perles, des paroles saintes ? Et oui, malheureusement, au tribunal de l'injustice, nous sommes tous au banc des accusés. Ça va pour vous? Ça fait drôle, hein? Quand Jésus il braque ses projecteurs sur nos cœurs, ça fait bizarre. Parfois, on a même envie de se cacher. Mais alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on a compris, mais chacun trace sa route, on ne fait plus rien. On laisse faire le péché, on tolère, on devient laxiste, on ferme les yeux. Eh bien non, même s'il semble que ça soit problématique et qu'on soit un peu dans une impasse, eh bien, il y a des versets qui vont voler à notre secours à la suite de ce passage, dans la continuité de ce passage, et des versets qui vont nous faire rentrer dans une dynamique. Ces versets, tu peux mettre la diapo, c'est « Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. » Voilà. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Tu peux mettre la diapo d'après et la première. Voilà. Et recliquer. Voilà. Demandez, vous recevrez. chaque fois que nous lisons ensemble, excusez-moi, lorsque les pharisiens ils ont quitté Jésus et la femme adultère, Jésus, il n'a pas dit à la femme « Va et fais n'importe quoi ». Non, Jésus il lui a dit « Va et ne pêche plus ». Il n'est pas question d'être laxiste, ça c'est clair. Ôte d'abord la poutre de ton œil. Ces mots de Jésus simples, ils nous encouragent premièrement à prendre nos distances avec le péché. C'est là notre responsabilité individuelle. Demandons de l'aide pour nous éloigner nous-mêmes du péché et nous la donnera. Prions. Je me souviens d'un week-end de jeûne qu'on avait fait avec Pascal, entre autres. Et pendant un temps de prière, après un temps de prière, on a fait quelque chose de symbolique. On a tous réfléchi au péché qui nous empêchait d'avancer dans la vie, les choses qu'on avait lourdes, dont on n'arrivait pas à se débarrasser, qui étaient lourdes pour nous. Et on a écrit ces péchés, en fait, chacun, dans l'intimité, sur un papier. Et on a cloué ces papiers sur une croix. Je crois que sans faire ça, sans prendre une croix tous les matins et clouer un petit papier dessus, je pense qu'on peut le faire dans nos cœurs. C'est notre responsabilité individuelle de demander au Seigneur qu'il prenne nos péchés. Il y a encore quelque chose d'important pour nous à saisir ici. Encore une fois, ce n'est pas simple. Cette responsabilité individuelle, elle est double. Si dans une église parfaite, dans une église idéale, à la fois, je vais faire une démarche personnelle parce que je sais que je me débats avec un péché particulier. Mais à la fois, la personne à qui je vais me confier ou la personne qui va me reprendre, elle a elle-même entrepris la même démarche. Et inversement, dans une église idéale, chacun est invité à se rejoindre sur le chemin de la droiture. D'ailleurs, Jacques nous dit « La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité et d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Donc on entend conciliante, modérée, pleine de grâce. Ça veut dire que si chacun prend la responsabilité, sa responsabilité dans la prière, dans l'honnêteté, dans l'humilité, alors le miracle est possible. Deux chrétiens, trois chrétiens, quatre chrétiens peuvent se rejoindre sur le chemin de la croix et se porter l'un l'autre sans se juger. Voilà. Demandez, on vous l'entendra. Ensuite, ce n'est pas tout. Cherchez et vous trouverez. Chaque fois que nous lisons ensemble la Bible et que nous cherchons ensemble, nous trouvons ensemble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est une promesse du Seigneur. Le groupe de maison, le culte ce matin, les études bibliques. À chaque fois, nous adoptons l'attitude responsable de nous tourner en église vers la parole. C'est notre responsabilité collective. Pourquoi ? Parce que la parole, c'est elle qui nous juge. C'est elle qui nous travaille. C'est elle qui nous creuse par l'action de l'Esprit en nous. L'apôtre Pierre, il va dire que l'eau du baptême... Il a dit que l'eau du baptême ne nous purifie pas du péché. L'eau du baptême, elle nous engage dans une bonne conscience envers Dieu. Cette bonne conscience, elle est collective aussi. En tant qu'Église, en tant qu'épouse, qui va chercher à se parer d'une bonne conscience collective dans l'attente du retour de l'époux. Concrètement, chaque dimanche, chaque groupe de maison, chaque étude biblique, c'est l'occasion de nous tourner ensemble vers la parole de Dieu et de la laisser nous juger. Donc ces temps de recherche, ils sont essentiels. Vous êtes d'accord ? Ça doit nous faire réfléchir pour notre considération sur ces temps. Facultatif ou essentiel ? Alors moi, personnellement, la réunion maison, c'est bon. Le culte, c'est bon. Les études bibliques, je ne vais pas aller plus loin, sinon je vais me tirer une balle dans le pied. Cherchons ensemble à discerner ce qui est bon, juste et parfait. C'est notre responsabilité collective. Donc voilà la dynamique dans laquelle le Seigneur nous conduit. Une responsabilité individuelle, une responsabilité collective. Et enfin, il va nous interroger sur notre motivation. Frappez et l'on vous ouvrira. La règle d'or de la foi chrétienne, vous la connaissez, elle est contenue dans ce dernier verset. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites de même pour eux. C'est la règle d'or. Se mettre à la place de l'autre, dans le service, dans la compassion, dans l'humilité. Est-ce que j'ai vraiment le souci de la santé spirituelle de mon prochain, de son bien? Si c'est pour me sentir moins coupable par rapport au péché que je vais vers mon frère, alors je ne suis ni dans l'amour ni dans la compassion. Je suis dans le jugement. Plus je vais frapper, et plus ça va se fermer. Si je reprends un frère ou une sœur comme j'aimerais qu'on le fasse pour moi, dans la paix, dans l'amour, dans l'humilité, je ne vais pas juger, je vais aimer, tout simplement. Alors pour que ça reste un petit peu, je vais oser une illustration un peu osée. Jésus nous met en garde ce matin de ne pas jouer au cow-boy de la piété. Voilà. Mais par contre, il nous encourage à être des cupidons de la foi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà. Ne jugeons pas ce qui a déjà été jugé à la croix. Soyons simplement des artisans de paix, des ambassadeurs de la grâce de Dieu. Alors, comment pourrions-nous avoir un regard juste sur l'autre et juger nous-mêmes qu'il pêche ou qu'il s'égare sans qu'on se condamne nous-mêmes? Galates 6, verset 1. Frères, quand bien même un homme s'est laissé surprendre par quelques fautes, vous qui êtes spirituels, redressez un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même, de peur que toi aussi tu sois tenté. Alors j'ai relu plusieurs fois, je me suis dit, mais Paul, ça a été bien traduit là. Paul était un peu fatigué quand il a fait sa lettre. Redresser un tel homme dans un esprit de douceur, prenant garde à toi-même. Ça ne me paraissait pas français. Je pense que c'est volontaire. Quand Paul il dit « vous », deuxième personne du pluriel, première personne du pluriel, redresser, encore, c'est bien une démarche collective à faire ensemble. Quand Paul il dit « prends garde à toi-même », c'est bien une démarche personnelle. Et dans un esprit de douceur, ben ça doit être notre motivation. Ça doit être notre intention. En entrant dans cette dynamique, on ne sera pas jugé hypocrite, mais artisan de justice et de paix. Voilà, soyez bénis. Je vais prier. Je vais prier. Et puis, je vais prier que pendant ce temps, voilà, c'est peut-être le moment de laisser le Seigneur braquer sa lumière, le projecteur de sa grâce, de son amour sur nos cœurs. Seigneur Jésus, tu nous as donné l'exemple de ton humilité, Seigneur. Tu nous as donné l'exemple, tu t'es donné de ton service. Tu as été le premier serviteur dans la prière encore, ça nous a été rappelé ce matin. Tu t'es fait serviteur, Seigneur. Seigneur, tu as pris tout péché, toute condamnation. Tu as touché le fond pour nous, Seigneur. Et ce matin, ben, on veut te déposer en Église et chacun individuellement nos fardeaux, nos faiblesses, tout ce qui nous retient de nous approcher de toi, Seigneur. On veut te remettre nos manquements, Seigneur, nos loupés, nos ratés. Seigneur, donne-nous ta grâce de faire de nous des ambassadeurs de paix, des ambassadeurs de ta grâce, de ton amour, Seigneur, et qu'on soit uniquement animé par ton esprit, un esprit de vie et ton esprit de douceur, Seigneur. Seigneur, prends nos cœurs, prends nos vies, et que ta volonté s'accomplisse en nous, Jésus. Amen. Sois béni.